Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous et bon réveil sur BPM. Il est 8h passé de 3 minutes. Bienvenue dans notre émission Les rendez-vous du Mantois, proposée chaque semaine le vendredi à 8h en direct. Et aujourd'hui, nous recevons Michel Vialet, député de la 8e circonscription des Yvelines. Monsieur le député, bonjour.
Bonjour et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de BPM.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous parlerons de politique nationale et notamment des projets de dépenses du président de la République. Nous aborderons le thème de l'environnement avec les assises de la transition écologique à Mantes-la-Jolie. Et puis nous reviendrons sur la récente inauguration de la maison médicale à Porcheville. On commence donc par le volet politique nationale, d'abord concernant l'économie. Vous avez récemment déploré les promesses de dépenses du président de la République Emmanuel Macron au mois de septembre. Qu'est-ce qui vous inquiète dans les propositions du chef de l'État ces dernières semaines ?
Alors, la première chose qui m'inquiète, c'est que le président de la République a déjà commencé sa campagne, ça tout le monde le sait, pour une éventuelle réélection que je n'appelle pas de mes voeux en avril prochain, et il fait campagne avec le chéquier de la France. C'est exactement ce qui se passe. Pourquoi ? On voit bien qu'il y a un certain nombre d'annonces, et quand je dis un certain nombre, c'est un nombre certain. En 15 jours, au mois de septembre, il a dû faire à peu près, lui ou son gouvernement, une douzaine d'annonces, à chaque fois à coups de millions, voire de milliards, en fonction des différentes annonces effectuées. Et autant on peut penser, et je suis d'accord sur certaines choses, qu'il y a des dépenses à effectuer, mais il ne suffit pas de faire des annonces avec des budgets. Encore faut-il que les dépenses soient efficaces. Ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là. Et puis la deuxième chose, c'est bien d'annoncer des dépenses. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est dire comment est-ce qu'on les finance. Parce que il n'y a pas de puits sans fond, sauf à continuer à endetter la France telle qu'on l'a fait, pas à cause de la crise Covid. Parce que M. Macron a dépensé plus, a eu plus de dépenses de fonctionnement que M. Hollande. C'est une réalité juste chiffrée. Alors, on n'a pas mené les réformes pendant ces dernières années. Donc ça veut dire que l'efficacité d'un certain nombre de systèmes dont on sait qu'il faut les faire évoluer n'a pas été réalisée. Et donc on est clairement en train d'endetter la France, plus qu'elle ne l'est déjà au jour d'aujourd'hui, et puis surtout de préempter ce que vont être les finances de la France. Parce que les dépenses qui ont été, pour certaines, annoncées là, sont des dépenses qui vont être récurrentes ensuite, chaque année. Et donc quand on voit déjà qu'on flirte avec les 120% du PIB, c'est quand même quelque chose de considérable.
Un sujet important qui nous touche...
Pardonnez-moi, oui. J'ai oublié un détail important, parce qu'on parle de la dette et des fois tout le monde ne fait pas forcément le lien. Mais la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain. Les impôts de demain, c'est nous tous qui allons les payer. Et surtout, ça va être des atteintes au pouvoir d'achat des Français qui a déjà été très mal mené. Donc je pense qu'à court terme, pour justement ce pouvoir d'achat, à moyen et long terme, pour la dette que nous allons transmettre à nos enfants, c'est quelque chose de dramatique.
On passe donc à un sujet important qui nous touche au quotidien depuis plusieurs mois, c'est la Covid et la vaccination. Votre position d'abord sur le sujet, elle est claire, il faut se faire vacciner.
Ah, c'est ma position, elle est tout à fait claire, je l'ai déjà répété à de nombreuses reprises. Nous n'avons pas d'autre moyen de pouvoir nous protéger contre le Covid. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas tout ça, donc la vaccination est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'on le voit bien, tous ceux qui tombent malades et de façon importante, tous ceux que l'on va retrouver ensuite dans les soins intensifs, sont ceux qui majoritairement ne sont pas vaccinés. On voit bien le drame qu'il peut y avoir dans les Outre-mer où le taux de vaccination est très inférieur à ce que l'on trouve, à ce que l'on est parvenu à en France en termes de taux de vaccination. Je ne comprends pas, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de levées de boucliers à un moment donné contre la vaccination. Moi, j'appartiens à une génération où on était d'office vacciné dès qu'on était très jeune, contre la diphtérie, le tétanos, la tuberculose. Enfin, il y a un grand nombre de vaccins qui étaient des vaccins obligatoires. Il y avait des vaccins contre la variole qui ont permis de pouvoir quasiment éradiquer cette chose-là en France. Le vaccin, c'est un moyen de protection. Enfin, on est au pays de Pasteur. Hein? Donc, avoir peur des vaccins, c'est, euh, c'est ne pas faire le bilan entre ce que permettent les vaccins en termes de protection par rapport à ce qu'il peut y avoir comme éventuel risque. Quand je dis éventuel, c'est... on a tous les hommes sont différents. Et évidemment, lorsqu'il y a... il peut y avoir des réactions qui soient personnelles, pour X raisons. Mais quand on voit ce que permettent ces vaccins, enfin, regardez, si maintenant nous avons la possibilité d'avoir un petit peu plus de liberté qu'il y a un an, c'est bien parce que nous avons un taux de vaccination supérieur qui fait qu'on n'engorge pas les hôpitaux. Tout cet épisode de Covid a fait qu'on a déprogrammé un grand nombre de soins dont les uns et les autres avaient besoin. Et plusieurs le disent, il va y avoir des dépistages de cancer, par exemple, qui n'ont pas pu être effectués. Et vous savez que l'on laisse la maladie prospérer comme ça, eh bien, c'est des fois plus difficile, voire c'est mortel. Donc le fait de ne pas engorger nos hôpitaux, le fait de pouvoir se protéger alors qu'il existe des moyens, me semble capital. Et puis d'un point de vue économique, l'autre moyen pour éventuellement, si on ne se vaccine pas, c'est de faire ce qu'on a fait, c'est le confinement. C'est dramatique économiquement. Et moi, je pense, enfin, c'est un vieux proverbe qui dit que la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Moi, je ne suis pas prêt à limiter ma liberté dès lors qu'il y a un moyen pour pouvoir sortir, parce que d'autres voudraient absolument qu'on ne se vaccine pas. Et alors, c'est un choix personnel. Très bien, il leur appartient. Mais qu'ensuite, on aille détruire des centres de vaccination, c'est une atteinte directe à la liberté des autres. C'est scandaleux.
Et juste un mot rapidement sur la politique du gouvernement concernant la vaccination. Pensez qu'elle était trop laxiste ou elle vous convient ?
Mais c'est surtout qu'elle a démarré trop tard. De la même manière que pour les masques, au début les masques ne servaient à rien, après ils étaient obligatoires. De même que les tests, au début on balayait ça d'un revers de main, après on en a fait à tour de bras. La vaccination, la réalité c'est qu'on a pris 3 mois de retard. Alors certes, on a essayé de rattraper derrière, mais... on a pris 3 mois de retard. On aurait pu certainement gagner un trimestre à tout point de vue pour l'économie et pour sauver des vies.
Dernier sujet, sur l'actualité du pays, le projet de loi responsabilité pénale et sécurité intérieure du gouvernement. Alors la loi conduit à ce qu'un individu ne peut être pénalement responsable de ses actes commis sous l'emprise de produits stupéfiants. Le gouvernement a donc soumis ce projet de loi responsabilité pénale et sécurité intérieure. Vous qui siégez à l'Assemblée nationale, comment jugez-vous ce projet de loi ?
Alors, je vais juste refaire apporter quelques précisions. D'abord, ce que dit la loi, ce qu'elle disait, c'est qu'on ne peut pas juger quelqu'un de responsable dès lors que son discernement est aboli. Et bon, clairement, par exemple, quelqu'un qui est fou, on ne peut pas le rendre responsable de l'ensemble. C'est la loi. Lorsque Sarah Halimi, cette pauvre femme de 65 ans, ancienne directrice d'école, a été sauvagement assassinée par un triste sire. Lorsqu'il a été jugé, en 2019, il a été dit que comme il avait consommé avant des substances, des drogues, son jugement, son discernement avait été altéré, donc il ne pouvait être jugé en tant que responsable de ses actes. Je trouve que c'est proprement scandaleux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une folie qui viendrait de sa personne, d'une maladie ou autre chose. Il a pris volontairement, comme tous ceux qui en consomment, il a pris volontairement de la drogue. Ça l'a peut-être mis dans un état qui fait qu'il est allé au-delà des choses. Mais enfin bon, il suffisait déjà de voir ce qu'était le casier de ce triste sire pour pouvoir voir qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Je crois qu'il avait plus d'une vingtaine de condamnations compte tenu de son jeune âge, ça veut dire qu'il avait déjà de l'antériorité. Qu'il consomme de la drogue et qu'en plus de ça, il soit jugé irresponsable, ça a provoqué un gigantesque émoi. Et si vous vous rappelez, il y a eu un certain nombre de manifestations à ce moment-là. Le président Macron a dit qu'il allait faire évoluer les choses. Il a donc confié à son ministre de la Justice de faire évoluer la loi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a été présenté par le gouvernement comme projet ? Ce n'est pas de dire ceux qui consomment de l'alcool ou ceux qui consomment des drogues seront jugés comme responsables de ce qu'ils font parce qu'ils ont pris volontairement ces produits-là. Plutôt que de faire ça, eh bien, ce qui a été proposé, c'est de dire s'ils sont dans cette situation, ils auront des peines, mais elles seront allégées. Je ne comprends pas pourquoi. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et si je caricaturais les choses, si vous voulez tuer votre voisin, ben allez prendre une substance. Et comme ça, vous serez avec des peines très allégées. C'est scandaleux.
On passe à une actualité locale que nous avons appris hier soir. Un centre pénitentiaire de 700 places va être construit à Magnanville, dont l'ouverture est prévue pour 2027. C'est une annonce du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Donc il s'agit de renforcer l'offre pénitentiaire qui vise à répondre aux besoins de places nettes dans la région. C'était une nécessité pour vous de ce centre ?
Alors, il y a deux éléments de réponse. La première réponse, c'est est-ce que nous avons besoin en France de places de prison ? La réponse, c'est oui, parce que les conditions de détention carcérale sont assez dramatiques. Et puis surtout, on n'a pas assez de places. Laisser en liberté de dangereux individus, en gros, si vous avez des peines inférieures à un an, vous n'êtes plus emprisonné, on met un bracelet, mais enfin, vous voyez toujours vos victimes le lendemain. Donc, il y a nécessité de construire des places de prison. Le président de la République s'était engagé à construire, je crois, 15 000. Je ne sais pas si on arrivera au millier. Donc, d'autant plus que là, les effets d'annonce d'hier sont forcément des constructions dont on verra la sortie que dans quelques années. Il faut quand même le temps de passer les marchés et ensuite de construire. Mais bon, les effets d'annonce à la veille d'élection, surtout que les Républicains, ça fait déjà un certain temps, lui ont rappelé que cet engagement, entre autres, comme beaucoup d'autres, n'était pas tenu. Bon, il fallait certainement donner un signe. Et puis, la deuxième question, c'est sur la localisation. J'ai entendu, comme vous, les annonces du ministre de la Justice, qui d'ailleurs n'a pas pris la correction de m'envoyer une communication pour m'en prévenir et me dire à quel endroit, comment. Alors, je pense que c'est bien d'avoir un certain nombre de centres de rétention qui soient un peu répartis sur l'ensemble du territoire, de façon à ce que, le cas échéant, les familles puissent plus facilement aller voir ceux qui, à un moment donné, y sont hébergés.
On aborde à présent le thème de l'écologie. Vous êtes venu plusieurs fois dans nos studios, notamment pour détailler les effets néfastes du plastique pour la santé, pour l'environnement, pour le climat. Le Fonds mondial pour la nature a même rapporté dernièrement que c'était néfaste pour nos finances. Pourquoi ?
Écoutez, comme vous l'avez rappelé, membre de la commission développement durable et aménagement du territoire à l'Assemblée, mais surtout très sensible aux questions d'environnement, aux questions d'écologie, j'ai engagé dès le début de mon mandat un combat contre le plastique. Pourquoi ? Parce que c'est très néfaste pour la santé, puisque les perturbateurs endocriniens qui sont dans les contenants plastiques se transfèrent dans plusieurs situations ça ne va pas être clair pour les auditeurs. Ce qui est dans le plastique peut se transmettre au contenu qu'il y a dans le plastique. Et ces perturbateurs endocriniens sont facteurs de pathologies graves, cancer, obésité, maladie de la production, etc. J'ai donc lutté contre le plastique. Ce n'est pas un combat simple, parce que l'industrie de la plasturgie est très importante en France, entre autres. Et puis, cette production de plastique, elle a plus que doublé sur ces 30 dernières années. Et tout le monde dit que dans les 30 années qui vont suivre, elle va tripler. Donc, vous voyez qu'on continue à produire alors que c'est dangereux. Et c'est dangereux aussi, pas simplement par rapport à ce transfert immédiat, mais parce que tous les déchets plastiques qui sont dans la nature, plusieurs millions de tonnes, on parle du 7e continent qui est en fait tout un continent de plastique qui flotte dans les océans, tout ça aussi se transfère. Il y a des transferts qui se font entre les saloperies qu'il y a dans le plastique, hein, pour appeler un chat, et puis tout leur environnement. Et ce rapport, ce constat qui a été dressé par WWF, vient ajouter un point important, c'est que c'est nuisible pour la santé, c'est nuisible pour l'environnement, c'est nuisible pour la biodiversité, mais c'est également nuisible pour nos finances. Pourquoi ? Là où les industriels du plastique vantent de façon très régulière le faible coût que représente le plastique, ils ne se fondent que sur la production du plastique. La réalité, c'est que quand on intègre dans ces coûts, et c'est logique, le recyclage du plastique, et avant le recyclage, la collecte du plastique, dont je rappelle que c'est les collectivités locales qui le portent au travers de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et donc ce sont nos impôts à nous tous qui payons ce recyclage. Et puis, vous avez également tous les effets qu'il peut y avoir en termes d'émissions de gaz à effet de serre au travers de ce que sont les réalités carbone. Le plastique, c'est fabriqué avec du pétrole. Donc, il faut aller extraire des énergies fossiles, assez loin de la France, puisqu'on sait qu'on n'a pas de pétrole. Il faut les amener, ici et il faut les transformer. Tout ça, dans le coût de production, ce n'est pas intégré. Donc, évidemment, c'est important de pouvoir sensibiliser chacun au fait que ce constat dressé par WWF montre qu'en réalité, le coût global du plastique, c'est 10 fois supérieur au coût de production. Donc, c'est très mauvais pour nos finances.
Et à propos d'environnement, les assises de la transition écologique à Mantes-la-Jolie ont débuté la semaine dernière et se dérouleront jusqu'à fin novembre. Donc, elles s'appuient sur des ateliers, des conférences pour informer la population et faire émerger des propositions. Quels sont les enjeux de ces assises ?
Je pense que c'est un enjeu de communication, sensibilisation avec chacun et chacune d'entre nous, parce qu'on parle des fois beaucoup d'écologie, d'environnement, mais on ne met pas toujours derrière les mêmes choses ou on ne voit pas la plénitude de ce que sont les sujets. Et une fois qu'on est à mieux appréhender ce que sont les enjeux de la transition écologique, il est important de pouvoir partager ensemble ce que chacun d'entre nous peut faire. Parce que la transition écologique, ce n'est pas simplement l'affaire des autres. Ça peut concerner chacun de nos gestes. Par exemple, sur le tri des déchets, pour en prendre un qui est très simple. Par exemple, sur le choix de ce que l'on peut peut-être acheter demain, histoire de mettre un peu la pression sur les producteurs, ne pas se jouer la facilité avec des fois des produits qu'on achète qui ont un packaging terrible. Enfin, vous commencez à retirer le film plastique, après vous retirez le carton, après vous avez vous avez des fois des aliments très quotidiens que je ne citerai pas, où vous avez un paquet de packaging, papier, carton et plastique, qui est terrible par rapport à la quantité que vous consommez. Et donc, ce sont des petits gestes qui peuvent jouer beaucoup. Ben, je suis très favorable à l'achat en vrac. C'est quelque chose qui permet d'abord de prendre la juste quantité dont on a besoin, et pas celle qu'on a envie de nous vendre avec tous les bons arguments qu'il peut y avoir. Et le vrac, eh bien, c'est un geste écologique.
On termine cet entretien par une autre actualité dans le Mantois. Mercredi, vous étiez à l'inauguration de la maison médicale de Porcheville. Les maisons médicales, c'est la clé, selon vous, pour régler le problème de la désertification médicale dans le secteur ?
Je ne vais pas dire que c'est la clé. Le vrai problème, c'est que ce gouvernement et le précédent n'ont pas réagi suffisamment vite, alors que tout le monde savait qu'il y aurait une pénurie de médecins, ne serait-ce que du fait des départs en retraite. Or, un médecin, il faut le temps qu'il puisse se former. Donc, il y a eu de façon extrêmement récente une réforme du numerus clausus. Il a fallu la faire il y a déjà probablement 7 ou 8 ans, ce qui n'a pas été réalisé. Mais c'est vrai que les médecins, en plus de ça, je parle notamment de tout ce que sont médecins et profession médicale, sont pas forcément bien traités en ce qui concerne la rémunération qui est la leur. Bon, une visite médicale, c'est chez son généraliste, c'est 25 euros. Ça peut paraître peut-être beaucoup à certains, mais bon, il faut bien que le médecin puisse vivre sans lui être obligé de faire 12 heures par jour. Hein. Et le fait d'avoir des maisons médicales, ça permet tout à la fois d'essayer d'alléger un peu les charges, parce que ça permet de les partager entre plusieurs spécialistes. Ça permet, spécialistes ou en tout cas personnel, profession médicale, et puis, ça permet d'avoir une offre pour tous ceux qui en ont besoin qui soit un petit peu globalisée. C'est vrai que ça amène beaucoup de confort. Alors, le risque que tout le monde a, c'est que chacun cherche, chaque maire, et c'est légitime, cherche à attirer des professions médicales sur son territoire de façon à ce que ses habitants puissent en bénéficier. C'est vrai que quand il y a la pénurie et que chacun se fait de la concurrence, la maison médicale, ça peut être un vrai argument pour pouvoir être à bénéficier de locaux modernes, de mutualiser un certain nombre de fonctions, peut-être du secrétariat ou autre chose. Donc, c'est un avantage concurrentiel important. Et donc, j'ai eu plaisir à inaugurer cette maison à Porcheville avec son maire, Didier Martinez, mercredi dernier. C'est une belle maison, il va y avoir de mémoire 250 mètres carrés, 8 professionnels peuvent y être accueillis. C'est très central au niveau de la ville, donc proche également des circuits de transport. Donc, c'est quand même une belle chose.
Merci beaucoup, Michel Jallier, d'avoir accepté notre invitation.
Bonne journée à tous les auditrices et tous les auditeurs de BPM.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous. Et juste après la pub, le retour des pubs, puis votre journal d'information locale à 8h30.
Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois. Allez, on sort du lit. C'est BPM Matin.